It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Binge Audio présente
En janvier 2024, Emmanuel Macron était en visite officielle en Inde. Un symbole fort des rapprochements entre Paris et New Delhi qui, à chaque fois, ne manque pas de soulever des questions, notamment sur la caution apportée par notre pays aux dérives autoritaires de Narendra Modi, le Premier ministre indien. Il n'empêche, pour les pays occidentaux, l'Inde est un partenaire de choix pour endiguer l'influence de la Chine, l'autre acteur majeur de l'Asie. Avec ses 1,4 milliard d'habitants, l'Inde est par ailleurs un laboratoire géant d'idées et d'innovations souvent nées de la nécessité d'improviser des solutions avec les moyens du bord. C'est cet aspect que la journaliste Rosane Le Saint est allée explorer pour nous au royaume du système D, le temps de deux épisodes hors série en partenariat avec l'Agence française du développement et le média Tilt dédié à la jeunesse. Deux épisodes réalisés par Elisa Grenet, dont voici le premier. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B.
Je suis jamais allée en Inde, ni même en Asie. Avant d'arriver à Bangalore, dans le sud du pays, la première image que j'ai en tête, c'est celle de rues bondées de pousse-pousse motorisées à trois roues qui conduisent comme des pilotes, en klaxonnant à tout bout de champ. Et j'ai pas été déçue. Ces mototaxis jaunes et vertes, les rickshaws, comme on les appelle en Inde, tuk-tuk dans d'autres pays, déboulent de partout. Le rickshaw en soi, c'est du système D. Comment se débrouiller pour contourner une difficulté ? Les voitures coûtent trop cher, mais il faut se déplacer rapidement. On installe un moteur à une charrette et on lui ajoute une roue. Ça correspond à l'esprit de Jugad, un mot indien pour définir l'art de faire plus avec moins, grâce à l'ingéniosité du quotidien. À la sortie de ce temple hindou, par exemple, le riz aux oignons, à la feuille de curry, à la cardamome et au citron, qui sent si bon, est distribué dans une coupelle improvisée, un tissage de feuilles. Une solution zéro frais, zéro déchet, un concept qui me tient à cœur. Autant, même si je fais tous mes trajets quotidiens à vélo ou en train, je ne suis pas du tout un exemple côté bilan carbone. Je prends l'avion, la preuve. Autant, je déteste le gaspillage et j'essaie de produire le moins de déchets possible, à ma toute petite échelle. Mais mes bocaux, mon déo et ma lessive maison, ça va pas chercher bien loin. Toute solution qui promeut le zéro déchet à plus grande dimension attire mon attention. La fondation Vilgro soutient des start-up indiennes qui s'attaquent à la gestion des ordures. Je me rends à son siège à Bangalore, dans un quartier résidentiel de cette Silicon Valley indienne, comme on a l'habitude de l'appeler. Au royaume du Jugad, cet esprit de débrouille, la capitale pourrait bien être Bangalore d'ailleurs. On y trouve tout l'écosystème nécessaire à transformer une bonne idée en solution développée à plus grande échelle, pour du long terme, avec cette galaxie de start-up, d'incubateurs et d'organisations prêtes à trouver un modèle économique pour la rendre viable. Quelques mousses sont collées aux vitres de la salle de réunion en guise d'isolation phonique. C'est là que je retrouve Pratim Raha, responsable de l'action climatique de Vilgro. Ça le fait rire quand je lui demande la signification du Jugad.
Je crois que c'est très difficile à définir. Je dirais que le Jugad, c'est réussir à faire quelque chose avec ce qu'on a sous la main. À la base, on ne vise pas une précision extrême. L'objectif premier est de résoudre le problème avec les ressources disponibles autant que possible. Ce qu'on a sous la main. Et de trouver comment s'y prendre. Je pense que c'est ça le Jugad. Je ne vois pas comment mieux le définir. On ne peut pas se payer des véhicules très chers. Ça, ce sont nos rickshaws. Très Jugad, vous le voyez.
Alors que l'équipe de Vilgros m'offre un thé masala, un thé au lait aux épices, il me montre des images de rickshaw traditionnels, des pousse-pousse avec chauffeur qui courent pour le faire avancer, auquel un moteur a été ajouté. Il existe la version rickshaw vendeur de gaz, rickshaw livreur. C'est simple, les routes bordéliques de Bangalore, on dirait un circuit de petites voitures avec des Playmobil grandeur nature. Celui qui m'intéresse le plus, c'est le rickshaw éboueur. Ici, il n'y a pas de collecte des ordures organisée comme chez nous par les pouvoirs publics. Pas de poubelle jaune le lundi, marron le mercredi, verte le vendredi, mais un système de ramassage informel dicté par ce que rapportent les déchets. Et pour en ramasser plus et que ça rapporte plus sur le marché noir, ça se fait en rickshaw. Ce petit modèle bon marché permet de se faufiler dans les embouteillages et la moindre des ruelles indiennes. Les ramasseurs et ramasseuses de déchets sont pour la plupart des intouchables, qu'on appelle les parias en Inde. Victimes du système de caste, ces parias, donc, sont affectés aux fonctions dites impures. Ils et elles éventrent les sacs poubelles dans la rue, conservent tout ce qui rapporte, tout ce qui peut être vendu dans l'objectif d'être recyclé. Pratim Raha, de la Fondation Vilgro.
30 à 40% de tout ça est recyclé par le secteur informel. Pour le plastique, c'est 50 à 60% de recyclage. Les bouteilles en verre, c'est 100%.
Almost 100% of it is getting recycled by informal sector.
Et puis le reste, considéré comme sans valeur, forme des tas d'ordures ménagères. Dans la rue, je tombe nez à nez avec une vache, l'animal sacré en Inde. Et pourtant, elle a l'air affamée. Elle lèche des sacs plastiques dans un seau rempli de saleté. De temps en temps, quand les déchets s'accumulent trop en pleine ville, les services de la municipalité embarquent le tout. Ils sont ensuite incinérés ou enfouis dans des décharges. Dehors, j'aperçois aussi un rickshaw éboueur. Ça y est, sa mini-benne est pleine. Il part. Mais pour aller où ? Le rickshaw se gare devant une montagne de déchets, d'emballages, de bouteilles d'eau, de boîtes de conserve, l'équivalent de nos poubelles carton plastique. Ça ressemble juste à une immense décharge à ciel ouvert. En réalité, un peu plus organisé que ça en a l'air. Il s'agit d'un centre de tri au milieu d'un ancien bidonville qui a laissé derrière lui encore quelques bicoques de fortune en tôle ondulée. Des femmes assises par terre au milieu de ces tas de déchets les trient à main nue sous une bâche bleue pour se protéger un minimum du soleil. L'odeur de la colline de saleté monte, surtout sous les 35 degrés de ce classique milieu de journée printanier aux températures déjà caniculaires. La patronne du site, c'est Kumuda, uniforme de travail épais vert foncé, raccord avec son sari, cette tenue traditionnelle indienne qui descend jusqu'aux pieds. Au-dessus de ses sourcils, un point rouge, le bindi, le troisième œil, l'œil de la connaissance pour les hindous. Elle a ramassé les ordures pendant 20 ans avant de créer son centre de collecte il y a un an. Elle me le raconte en Canada, une des dizaines de langues locales du pays que toute la population de l'état du Karnataka parle. L'anglais, c'est seulement la langue de l'élite en Inde. Ça a été compliqué de faire son trou, d'abord en tant que femme, mais aussi en rendant officielle une économie informelle, me raconte-t-elle. Elle tient bon grâce à une ONG qui a joué l'intermédiaire avec les politiques locaux. À elle de trouver une clientèle pour lui racheter de quoi recycler, comme Shailaja Rangarajan, la chef de l'entreprise de réutilisation des déchets Reimagined, qui m'a amenée ici. Légaliser ce qui est géré en mode système D, au noir, c'est sensible. Celles et ceux qui organisent ça se font racketter, comme me l'explique Shailaja Rangarajan. On leur demande des pots de vin, ils et elles sont la cible d'intimidation, jusqu'à des menaces de mort, me raconte-t-elle. Deux jours après notre visite du centre de tri, je reçois un mail de Shailaja Rangarajan. Elle m'apprend que le site où nous sommes allés est parti en fumée. L'enquête est toujours en cours, mais il s'agirait d'un incendie criminel. Ce centre de tri, ça prend des parts du marché informel. Les produits chimiques contenus dans les déchets plastiques ont alourdi l'air déjà bien pollué de la ville. Et puis pour Kumuda, il faut repartir de zéro.
Comment faire pour tirer au mieux parti de ce que j'ai ? Parler de surcyclage, de recyclage, c'est se rendre compte que les ressources dont nous disposons ne sont pas infinies. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose à ma disposition aujourd'hui que je dois, que j'ai forcément le droit de m'en servir. Je ne l'ai pas. Aujourd'hui, on en parle à cause de cela. Parce que nous utilisons tous ce que Mère Nature nous a alloué.
Même si l'Inde est le pays le plus peuplé du monde, c'est pas celui qui produit le plus de déchets au nombre d'habitants. La règle d'or dans les pays les moins riches, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Les pneus des rickshaws, par exemple, encore eux, sont nettoyés avec des produits naturels comme de l'huile de coco et deviennent la base solide des sacs Imagined. Shailaja Rangarajan est issue d'une famille modeste. Une fois qu'elle a gagné sa vie, elle a dépensé un peu plus, parfois un peu trop, comme les pays riches en fait. Au point qu'elle se soit interrogée sérieusement sur la surconsommation et la possibilité de réutiliser les déchets. C'est l'étape d'après le recyclage, le surcyclage. Elle a fini par créer Imagined.
La chose la plus courante, tenez, quand j'étais petite, on n'avait pas de bâche en plastique, vous voyez ? Donc ce n'était jamais un problème. Mais le tissu. Avant, quand on achetait des vêtements, on n'en achetait pas autant. On avait deux tenues en Inde, pas plus. Et ça paraissait nous convenir à tous, pas vrai ? Mais comment ça se fait qu'on ne jetait rien ? Qu'est-ce qu'on en faisait ? Un exemple très simple. Un grand drap, quand il s'use, on peut s'en servir de couvre-lit. Les saris en coton peuvent servir de couvre-lit ou de rideau. Récupérer de vieilles affaires, c'était un style de vie. Il n'était pas question d'acheter des choses neuves tout le temps. J'ai réfléchi à ce que je faisais petite au foyer dans lequel j'ai grandi. N'importe qui de 40, 50 ans, ça ne les étonne pas du tout quand on parle de ça en Inde. Évidemment, on faisait tous comme ça, pas vrai ? C'est exactement ça que j'essayais de retrouver. Je me suis dit, pourquoi ne pas y retourner ? Pourquoi ne pas aider les autres à se retrouver et à réenvisager leur consommation ? Le jugad, vous savez, a parfois une connotation négative. En Inde, d'ailleurs, c'est comme ça partout. Quand une solution naît d'un modèle basé sur la contrainte, quand on n'a pas les ressources nécessaires. Par exemple, si vous prenez une famille comme la mienne, quand j'étais petite, pour nous, la contrainte, c'était l'argent. Bon, donc notre style de vie était également contraint parce qu'on pouvait acheter, parce qu'on pouvait dépenser et se payer. Le jugad, traditionnellement, dans le langage courant en Inde, ça veut dire que vous trouvez une solution avec les moyens du bord.
How do you kind of find a solution within the means that are available to you?
Elle trimballe son sac à main partout depuis 3 ans. Les morceaux de jean bleu et noir, coquettement assemblés, tiennent toujours. La pochette Imagined, plus chic, a été remarquée lors d'une présentation à New York. L'Inde n'est clairement pas un modèle s'agissant de la gestion des déchets avec son service public défaillant. Mais le pays est un tel réservoir de matière grise que des idées innovantes émergent pour tenter d'y remédier. Je me dirige vers le nord de la ville, où elle est plus aérée, comme l'était le centre de Bangalore il y a une dizaine d'années. À l'époque, on l'appelait encore Garden City. Des jardins offraient une respiration entre deux zones bitumées. Puis elle s'est ultra-urbanisée. Son surnom a évolué en Garbage City, la ville poubelle. Comme souvent en Inde, les bords de la route sont un vrai dépotoir. Ça tranche avec ma destination finale, un lot d'immeubles récents très propres, où je retrouve Jayanarayan Kulathingal, cofondateur d'une autre start-up, Bintix. Dans cet îlot d'habitation pour familles aisées, on se croirait dans un modèle d'exposition d'une cité zéro déchet. Les détritus organiques sont triés, mis au compost, puis servent d'engrais pour le jardin autour de la résidence. C'est le jour de collecte des détritus dits secs, non souillés. Sur les sacs poubelles, je remarque de drôles de QR codes. Les éboueurs les scannent et pèsent chaque sac. Les ménages reçoivent de l'argent, pas grand-chose, juste de quoi s'acheter un ou deux biscuits, en échange de chaque sac trié. Mais c'est déjà ça, c'est le moyen trouvé par la start-up Bintix pour inciter à un minimum de tri. Il l'embarque dans un petit camion. «
Le patron de Bintix, Jayanarayan Kuladingal, nous fait la visite, à moi et à toutes les mouches qui nous tournent autour.
No waste management company in the country today, as far as I know, can incentivize people by giving 2 to 4.
Aucune entreprise de gestion des déchets du pays aujourd'hui ne peut, à ma connaissance, motiver les gens en donnant 2 à 4 roupies. Ça, c'est l'étape d'après. On n'en est pas encore là. C'est pour plus tard, quand l'IA et les systèmes d'apprentissage automatique seront pleinement actifs. Vous avez vu que les sacs sont ouverts ? Le matériel est disposé sur la chaîne de montage. Là, c'était une chaîne statique. À plus grande échelle, à Hyderabad, par exemple, la chaîne de montage bouge. C'est un tapis roulant. Vous jetez à un bout et le matériel avance sans arrêt. Donc on le jette quand ça arrive. On a des caméras industrielles qui enregistreront l'image directement par le biais d'algorithmes. On déterminera la composition, combien de papier, combien de métal, combien de verre. Ça évalue la valeur à la vente et c'est le prix qui s'affichera sur le tableau de bord du client. Et nous, on se fera une marge et le client en aura plus. And that's the value which will get reflected on the customer dashboard. Today we are not able to. Aujourd'hui, on n'est pas encore capable de faire ça. La construction de cet outil est encore en cours. Unfortunately, the discipline or malheureusement, la discipline, comment dire, les gens sont paresseux en général. Once they get used to. Une fois qu'ils seront habitués, on fera comme ça, en faisant du tri en 5 compartiments. Ça facilitera grandement les choses. En fait, il y a 2 difficultés ici. L'une d'elles, c'est que si vous regardez les conditions de vie, les logements en Inde, eh bien, il n'y a pas la place pour 5 poubelles. Les logements sont petits. Le plus simple, c'est de tout mettre dans un seul sac, dans un coin. Ce qu'on a compris, c'est que c'est facile de le fermer et de le donner. Ça, ils y arrivent. Si on leur demande d'en faire 5, c'est très peu suivi.
Sa société est aidée par l'incubateur Vilgro, elle aussi. On retrouve Pratim Raha, avec qui on a partagé un thé masala. Il m'explique qu'avec ce procédé technologique d'un niveau élevé, appelé à durer, on passe à un autre stade. Selon lui, on ne parle plus de jugad, expression parfois connotée négativement en Inde pour son côté bricolage, provisoire. Là, on parle d'innovation frugale.
La principale différence avec le jugad, c'est que c'est un produit conçu correctement, à un haut niveau de compétence. L'Inde se dirige vers ça, je pense. On n'est plus dans le jugad. Maintenant, on a un produit correctement conçu. Ce niveau de précision, je crois que c'est ce à quoi on aspire. C'est d'aider à perfectionner cette idée. Pour améliorer la précision, on aspire à ça.
Et l'esprit d'innovation indien, ça peut aller loin. Jusqu'à l'empire créé par la dynastie Tata. C'est simple, Tata est partout en Inde. Dès l'atterrissage, pour se connecter au Wi-Fi de l'aéroport de Bangalore, c'est Tata. La famille a fait fortune dans l'aviation, la microélectronique, l'automobile. Pour rendre plus accessible la voiture, elle a commercialisé la moins chère du monde en 2009, la Nano, un modèle autour de 1500 euros, ultra basique, une sorte de rickshaw à 4 roues. Mais celui à 3 roues coûte encore moins cher. Et monter sur une moto à 3, voire 4, comme je l'ai vu sur place, bah c'est encore moins cher. Au final, ça n'a pas marché, la Nano n'a pas trouvé son public. La famille vise aussi une clientèle de luxe, elle est propriétaire de Jaguar et Land Rover, et d'hôtels très haut de gamme. D'ailleurs, j'arrive au somptueux Taj West End de Bangalore, qui lui appartient. Un vrai havre de paix avec une végétation tropicale foisonnante, une bulle verte en plein centre-ville, où les bruits des oiseaux de la jungle remplacent le concert de klaxons des rickshaws. Devant le majestueux hall d'entrée, derrière les valets qui s'occupent des voitures clairement pas les moins chères du monde, une statue de Jamsetji Tata, qui a créé l'entreprise, avec autour du cou un collier de fleurs de frangipanier très parfumé. On l'appelle aussi fleur des temples, pour sa symbolique forte chez les hindous et les bouddhistes. Je retrouve Jignesh Shah, le directeur général d'une autre entreprise, Deluxe Recycling. Il a séjourné au Taj West End à l'occasion d'une conférence sur l'économie circulaire. Depuis 1999, cette entreprise traite les déchets plastiques qui n'intéressent personne, comme les paquets de chips. Le plastique, c'est une vraie plaie pour l'environnement, du début à la fin. Il faut du pétrole pour produire les objets en plastique, souvent à l'autre bout du monde, et ensuite les acheminer. Leur durée de vie est courte, et les brûler une fois qu'ils sont jetés, ça émet des gaz à effet de serre. Or, ce sera en Inde qu'il y aura le plus de victimes du réchauffement climatique, compte tenu de la localisation du pays et de l'importance de sa population, selon une étude publiée en mai 2023 dans la revue scientifique Nature Sustainability. Plutôt que les déchets plastiques se retrouvent sur le bord de la route, Deluxe Recycling a eu l'idée de les récupérer via des centres de tri comme on a déjà visité. Puis la société les fait nettoyer et les agglomère pour les transformer en panneaux de bois. Ça peut servir à fabriquer des meubles, mais pour industrialiser le modèle, Jignesha a une autre idée.
Almost 80% of the auto rickshaws plying in India as well as worldwide would have a seat base and a backrest made out of a recycled board.
Presque 80% des rickshaws en Inde et dans le reste du monde comportent une assise de siège et un dossier fabriqué avec des planches recyclées que nous fabriquons nous-mêmes. C'est l'assise et le dossier du chauffeur et aussi le siège du passager. D'abord notre planche, puis par-dessus la mousse, puis enfin la housse. Tout ça, c'est le siège. Oui, comme ça. Et juste le bas, en fait, c'est une planche recyclée. Ça fait dans les 15 ans, à peu près, depuis 2006. On voulait trouver un débouché pour nos planches recyclées. Les premières années, on n'était pas acceptés sur le marché, alors on a essayé une approche différente. On est allé voir des fabricants d'automobiles et même des fabricants d'emballage pour essayer de remplacer le bois et le contreplaqué utilisé traditionnellement. Quand on a abordé un grand fabricant de tricycles en Inde, on leur a d'abord proposé de remplacer l'emballage qu'ils utilisaient pour exporter leurs pièces détachées, ce qu'on appelle des CKB pour les motos. Nos produits répondaient à tous les critères. Malheureusement, les clients ont rechigné à adopter de nouveaux matériaux. Mais heureusement, ces planches ont atterri dans leur service de développement produit. Et ils ont dit, pourquoi pas les utiliser pour les sièges à la place? C'est comme ça qu'on est entré sur ce marché.
Les pousse-pousse motorisés, encore eux. La boucle est bouclée. Malheureusement, seulement 13% des déchets plastiques sont recyclés en Inde. C'est quand même un peu mieux que la moyenne mondiale, qui ne dépasse pas la barre des 10%. Une partie est enterrée en décharge ou brûlée, la majorité jonche le sol et atterrit dans les rivières qui se jettent dans la mer. Le pays est même un des plus gros pollueurs des océans, notamment indiens, dans lequel la rivière Mandovi plonge, dans le plus petit état d'Inde, Goa. Quand j'arrive sur cette côte ouest pour rencontrer l'équipe de l'ONG environnementaliste Sensible Earth, c'est jour de manifestation pour protéger l'écosystème de cette rivière. L'idée est de créer une chaîne humaine à la plage de Miramar de Panjim, la capitale de l'état de Goa, justement où l'eau douce, véritable dépotoir par endroit, rencontre l'océan. Goa, paradis des hippies venus d'Europe dans les années 1960, est surtout devenu celui de la fête et du tourisme de masse par la suite. Sanjeev Khandelwal y a basé Sensible Earth.
Je crois qu'autant que possible, les manifestations, à Goa en tout cas, et dans d'autres régions d'Inde, bien les gens font en sorte que ce soit non violent et silencieux, mais très visible quand même. Aujourd'hui, c'est indéniablement une démonstration de force. Ça va au-delà de la campagne de signature de pétition. Ça amène vraiment des gens sur le terrain. On verra combien de personnes viendront aujourd'hui.
Il fait bien sûr référence au combat du Mahatma Gandhi pour l'indépendance de l'Inde, arraché aux Britanniques en 1947. Avec ses arrivées de hordes de touristes, les plages de Goa pâtissent de la pollution, comme me l'explique Sanjeev Khandelwal.
Goa is amongst, depends on which data you look at, is amongst the top four or maximum seven most biodiverse.
En fonction des données que vous prenez, Goa figure parmi les 4 ou 7 lieux avec la plus grande biodiversité de la planète. C'est aussi un endroit où la production de déchets par habitant est la plus élevée à cause du grand nombre de touristes. Les touristes qui viennent à Goa sont bien plus nombreux que les habitants qui vivent ici. Donc, en fait, l'empreinte carbone du tourisme dans le monde, et plus spécifiquement à Goa, n'est absolument pas viable.
Alors l'entrepreneuse indo-américaine Sumita Ghosh a décidé de renvoyer à l'envoyeur les déchets que l'industrie du tourisme provoque. Je la rencontre dans un prestigieux hôtel d'une autre famille, les Hilton, à Panjim, avec vue plongeante sur la rivière Mandovi.
You know, the luxury industry is a big producer of waste. So they are constantly vulnerable to...
Vous savez, le secteur du luxe est un très grand producteur de déchets.
Ils sont constamment rappelés à l'ordre pour ça par les militants et par les médias. Et ça affecte de plus en plus leur réputation. Car heureusement, le développement durable se généralise. Donc ça a un impact négatif mesurable sur la réputation des entreprises et des marques de luxe. Et ça leur fait prendre conscience de leur comportement, comme on a vu avec le genre de modèle de fast fashion qui s'est répandu dans le monde entier. Et les entreprises peuvent obtenir des réductions fiscales si elles font du surcyclage avec leurs propres déchets et qu'elles rachètent des produits fabriqués avec leurs propres déchets. C'est une histoire de relations publiques fantastiques et bien réelles et mesurables, pas juste du blabla. Elles doivent rendre des comptes. Je suis économiste, je réalise des évaluations, je mesure les données et je leur dis, vous savez, je vais faire de vrais rapports avec les données que j'ai comme preuve.
Et pour frapper encore plus fort, Sumita Ghosh a décroché un sacré marché. Elle a fourni des tapis de yoga aux dirigeants du monde entier à l'occasion du G20, ce rassemblement des 20 pays les plus puissants du monde. En septembre 2023, c'est l'Inde qui a reçu ses invités de prestige.
Ce tapis de yoga mesure 55 cm de large et 2,70 m de long.
Elle me montre de jolis tapis bleus et blancs qui rappellent les couleurs des azuleros, ces petits carreaux de faïence qui donnent à la ville de Panjim des airs de Lisbonne, parce qu'en fait, le petit état de Goa, c'est une ancienne colonie portugaise.
C'est innovant parce qu'il s'agit du secteur du bien-être. Un consommateur responsable. Et utiliser des matériaux surcyclés, dans un sens, c'est prêcher des convertis. Mais avec le G20, vous savez, on montre qu'au-delà d'un type de consommateur traditionnel, on peut toucher ceux qui peuvent vraiment soutenir une initiative qui va faire la différence. Ces personnes-là sont soucieuses de la longévité d'un produit, de prolonger la vie du plastique plutôt que de faire un nouvel objet qui finira à la décharge.
L'idéal serait bien sûr de régler le problème de la pollution à la source en produisant moins de déchets ou au moins en sensibilisant au tri. Au Makers Asylum, à Moira, toujours dans l'état de Goa, des savants un peu fous y travaillent dans ce lieu de partage de connaissances, foyer d'innovation et de jugad. Son fondateur, Vaibhav Chhabra, me fait la visite. À l'extérieur, une version encore adaptée du rickshaw égaré, un outil pédagogique pour inciter à la création de projets do-it-yourself.
The word jugad comes from Ludhiana, which is in Punjab.
Le mot de jugad vient de Ludhiana, au Punjab. C'était le nom d'un véhicule. À l'époque des Britanniques, il y avait beaucoup de fermiers et d'artisans dans les petites villes qui fabriquaient leurs propres véhicules jugad. Ils étaient généralement fabriqués avec des pièces détachées de ce qu'on pouvait trouver. La plupart des gens utilisaient des générateurs pour avoir de l'électricité à la maison et ils s'en servaient pour le véhicule. C'est là que l'ère du jugad a commencé. Ils se sont mis à fabriquer ces véhicules à partir de différents moyens de transport pour transporter les récoltes et aller d'un endroit à l'autre. Mais aucun n'était légal. À un moment, il y a eu plus d'un million de véhicules jugad en Inde, mais aucun n'avait de papier ou la moindre existence légale. Ils n'étaient pas légaux parce qu'aucun d'eux n'était de vrais produits. Je pense que Goa a une vraie culture de ça. Goa compte une communauté si incroyable d'artistes, d'architectes, de designers et d'artisans qui ont trouvé leur voie et se sont installés ici au fil des années. Goa a une vraie culture du bricolage et de la débrouille parce que depuis toujours, vous savez, c'est très dur de trouver un charpentier ou un artisan ou même un électricien pour vous dépanner. Alors tout le monde sait faire ci ou ça, et ce qui est super parce que ça rend les gens plus autosuffisants. Les villages par ici dans nos régions sont très clairsemés, les distances sont beaucoup plus grandes.
So the distances are higher.
C'est finalement à Sensible Earth, l'ONG des hippies, que je découvre le stade suprême de l'évolution du rickshaw. De couleur bleue, il ne fait aucun bruit. Ce rickshaw zéro déchet, que me présente Jonah Fernandez, carbure à l'électricité. À l'arrière, une mini boutique sur roue de vente en vrac. On y trouve toutes sortes de lentilles, des jaunes, des vertes, des corails, des fruits secs comme la noix de cajou, très cultivée dans l'état de Goa, et une panoplie d'épices, du curcuma au cumin, en passant bien sûr par le piment, qui m'a laissé la bouche en feu pas mal de fois pendant ces jours.
It's our mobile shop, so we fitted the back of the vehicle to be a shop in itself.
C'est une boutique ambulante. On a arrangé l'arrière du véhicule pour que ce soit une boutique. Quand quelqu'un nous passe commande, on ne l'emballe pas avant de partir. On vient avec tout le magasin. Comme ça, le client peut apporter ses propres contenants quand il vient à la boutique. Et on peut lui donner exactement la quantité qu'il veut. De cette façon, on essaye de rendre l'achat le plus pratique possible, parce que si la personne veut faire ses courses en zéro déchet et qu'il faut qu'elle se rappelle qu'elle doit prendre ses contenants pour aller dans un magasin zéro déchet, là c'est tout le magasin qui vient à elle en fait. Elle n'a plus besoin de se rappeler de les prendre. Donc c'est très pratique, et tout est local, tout vient d'aussi près que possible. On essaye de réduire notre empreinte carbone comme ça, et on contribue à soutenir l'agriculture locale. On travaille avec des exploitants du coin, plutôt que d'avoir un produit qui fait 3000 ou 4000 km. On fait notre possible pour accorder la préférence à l'agriculteur local. Et par la même occasion, on réduit notre empreinte carbone. Le fait que le véhicule soit électrique, ça compte aussi pour l'empreinte carbone. Et aussi, pas de plastique. On fait en sorte de ne pas utiliser de plastique. On utilise des sacs et quand les clients n'ont pas leur contenant, on leur donne des sacs réutilisables.
Et ces petits sacs sont fabriqués à partir d'anciens saris toujours, cette tenue traditionnelle. Et des saris, j'en ai vu de toutes les couleurs dans les campagnes indiennes. Les habitantes que j'ai rencontrées en voient de toutes les couleurs, elles aussi. Il faut lutter contre la chaleur extrême, le manque d'eau et les coupures d'électricité. La nécessaire sobriété résonne chez nous depuis peu finalement. Bah, c'est leur quotidien depuis des années. Je me dis qu'on pourrait peut-être s'en inspirer. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.